Alors aujourd'hui, on reçoit Thomas Cantaloube, non pas à la librairie, mais chez un ami. Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on te reçoit pour la sortie de ton dernier livre, qui est le dernier volet d'une trilogie qui s'appelle Mai 67, qui est une trilogie autour de la Ve République, en gros.
Oui, c'est les débuts de la Ve République, en fait, de 59 à 67.
Et c'est la fin de la trilogie, il n'y aura pas d'autre.
Pour le moment, a priori, oui.
Vous avez été journaliste pendant 25 ans. Vous avez voyagé partout dans le monde, vécu aux États-Unis surtout, si j'ai bien compris. Et pourquoi ce changement de carrière? Est-ce que la fiction, ça vous permet de dire des choses que vous ne pouviez pas dire quand vous étiez journaliste, par exemple?
Voilà. Moi, je réponds. La dernière question en premier, c'est effectivement la fiction permet de raconter les choses d'une autre manière. J'espère de la rendre plus accessible, notamment par le biais d'un littérateur de genre, donc quel polar. Parce que ce que je raconte dans mes romans, j'y reviens un peu, mais ça se trouve dans les bouquins d'histoire. Mais effectivement, il n'y a pas forcément, les gens ne vont pas forcément lire des livres d'histoire, des essais. Je pense que le polar permet de raconter ça tout en racontant une intrigue. Il y a les codes du polar, en gros.
Oui,
il y a quand même souvent quelqu'un qui meurt au début, et puis on résout le crime, on trouve le coupable à la fin. Et mon but premier, quand même, en écrivant ça, c'est d'amener les gens à lire du début jusqu'à la fin, à être suffisamment. Que l'intrigue les accroche suffisamment pour qu'ils aient envie de continuer. Et si en plus je peux raconter des choses qui, moi, tiennent à l'histoire, mais il y a d'autres romanciers qui font ça, notamment aux États-Unis, des gens comme Tony Lerman qui font ça avec,
oui, avec
la population navajo, James Seaburg avec la Louisiane, il y a ça aussi en Afrique du Sud avec des gens comme Dionne Meyer ou Mike Nichols qui racontent pour l'un l'époque l'époque d'apartheid et puis l'autre ce qui se passe depuis. Voilà, c'est ça l'ambition. Et pour revenir au début de votre question, moi j'ai été journaliste pendant 25 ans, principalement sur l'actualité internationale, et j'avais toujours été travailler par des envies de fiction, en fait, parce que quand j'étais étudiant, j'avais hésité entre faire du cinéma ou faire du journalisme. J'avais choisi le journalisme, mais il y avait toujours ces envies de fiction qui me travaillaient. Et quand je m'y suis mis, en fait, j'ai eu à la fois l'envie de faire un double pas de côté, c'est-à-dire que passer du récit journalistique à la fiction, et moi qui couvrais l'actualité internationale, de passer de l'actualité internationale à mon pays. Et j'ai envie un peu de me coltiner mon pays, ce que j'avais très peu fait dans mon activité journalistique, par le biais de la fiction.
Oui. Oui, ça marche bien, parce que le premier Requiem pour une République, ça parle de l'indépendance de l'Algérie. C'est quelque chose qu'on connaît un peu, mais que voilà, qu'on révise. Les suivants, c'est des choses beaucoup moins connues. Et Mai 67 en particulier, cette histoire de Guadeloupe, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mmh. C'est quand même dans les livres d'histoire, mais pas ceux qu'on étudie au lycée, en tout cas. Oui, donc ça fonctionne bien. Et vous avez parlé de cinéma. Moi, je trouvais que c'était très cinématographique, effectivement. On est bien dans l'ambiance des années 60. Est-ce qu'il y a des réalisateurs, des films qui vous ont inspiré?
Oui, bah, beaucoup pour le premier, pour Requiem pour une République, c'est beaucoup les films de Jean-Pierre Melville.
Ouais.
Et puis ces courants de films de Lautner, ces films avec Gabin, Belmondo, etc.
Ouais.
De cette époque-là. Et en fait, quand j'écrivais, je voyais des images un peu en noir et blanc, et ouais, je racontais.
Et
en
on
fait,
les voit en lisant aussi.
Et en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, parce que tout le monde n'arrêtait pas de me dire « Ah, mais quand même, vous êtes vachement documenté sur la période. » J'ai pas fait un travail de documentation gigantesque, hein, je ne suis pas historien, donc je me suis inspiré des travaux d'historien. Et puis après, en fait, moi, quand j'écrivais, j'imaginais des images de ces films. Donc je décrivais des types avec des chapeaux mous et des cigarettes dans les arrière-salles de bar.
C'est ça, on voit bien ça.
Et en fait, quand les lecteurs ils disaient ça, eux, en fait, ils voyaient les mêmes images de films que moi, finalement. Donc du coup, ça fonctionnait assez bien comme ça.
Bien,
voilà.
Ouais. Ouais.
Peut-être on peut juste revenir sur cette trilogie donc, qui commence en Algérie.
Oui.
Et puis voir jusqu'où ça arrive, la Guadeloupe, donc cet épisode vraiment moins connu. D'un massacre qui a été commandité du coup par le gouvernement sur une manifestation de rébellion par rapport au statut des indigènes, on va dire. Est-ce qu'on peut retracer peut-être la chronologie?
Ouais, bah, et le premier roman, donc Requiem pour une République, commence effectivement peu après l'arrivée au pouvoir de Gaulle en 58. Et en fait, c'était un peu la motivation première de cette trilogie, c'était de me dire, c'est une histoire qui est relativement récente. Pour nous, on est un peu après, mais nos parents et nos grands-parents ont très bien connu cette époque-là. Ils ont vécu au travers, et nous, quand on est nés, elle n'était pas si lointaine. Donc c'est à la fois assez proche, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas appris à l'école. En tout cas, moi, je n'ai pas appris mon programme de lycée et de fac. Et des événements qui étaient... la Galerie commence à en parler, c'est dans les manuels scolaires, etc. Mais il y a énormément pas mal de choses dont on ne parle pas. Et moi, ce qui m'intéressait dans la Galerie, c'est au moment où elle passe finalement du sol algérien au sol métropolitain, avec une très grande violence. Parce que c'est une période où il y a des attentats du FLN, il y a des contre-attentats de l'OAS, il y a des élus qui sont assassinés. Et notamment dans le premier crime, je parle du maire d'Évian. C'est quand même une grande ville française. Il a assassiné. Son simple tort, c'est d'avoir accueilli dans sa ville des pourparlers officiels entre le gouvernement et les indépendantistes algériens. Mais il est assassiné par l'OAS pour ça. Il y a un attentat qui, j'ai découvert en écrivant le bouquin, était l'attentat le plus meurtrier en France contemporaine avant ceux des 2015 des terrasses et du Bataclan. C'était contre le train Paris-Strasbourg. Là, encore une fois, un attentat de l'OAS. Et quelque chose qui a complètement disparu de la mémoire aujourd'hui. Donc ça, c'était un peu le début. Ça m'intéressait de montrer cette violence sous-jacente et de contrer un peu cette idée, parce qu'effectivement, ce qu'on pouvait apprendre à l'école et même encore ce qui est facilement véhiculé aujourd'hui, c'est que la République, c'est un grand bazar, on n'arrive pas à gouverner ça, la France a perdu l'Indochine, est en guerre en Algérie, et finalement, De Gaulle arrive un peu par une liesse populaire au pouvoir. Il règle la question algérienne de coup de cuillère à peau et hop, on repart dans les Trente Glorieuses et tout va bien. Sauf que non, en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus de forces qui ont œuvré à ce que De Gaulle arrive, qui étaient des forces qui venaient de la Seconde Guerre mondiale, pour partie de la résistance, mais aussi de la collaboration, qui a eu donc tous ces mouvements. Donc voilà, ça m'intéressait un peu de regarder ce qu'on balayait sous le tapis. Et en fait, une fois que j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu qu'il y avait pas mal de choses dans l'époque qu'on avait balayé sous le tapis. Et donc la seconde, c'est ce que je raconte dans Fracas, qui est la guerre du Cameroun. Et la guerre du Cameroun, en fait, si on pose la question aux gens, imaginez une guerre où il y a eu l'emploi du napalm, des déplacements de population, des villages vidés de force, des camps de regroupement, voire des camps de concentration. On va vous dire, guerre du Vietnam. Oui, effectivement, guerre du Vietnam, c'est vrai, mais guerre du Cameroun aussi, en fait, qui a été une guerre qui a été menée d'abord par la France jusqu'à l'indépendance du Cameroun en 60, et après par des soldats camerounais formés par des Français. Et c'est une guerre qui, pour le coup, est complètement passée inaperçue, parce qu'à l'époque, elle n'était pas couverte par la presse, qui avait d'autres chats à fouetter, effectivement, avec les guerres d'Algérie, et surtout, comme c'était vraiment une sale guerre, le gouvernement français a tout fait pour ne pas trop en parler, quoi. C'était juste une époque où, effectivement, on ne voyageait pas aussi facilement que ça au Cameroun. Et donc, voilà, c'est une guerre et une attitude qui... de la manière dont la France a finalement géré l'indépendance d'une de ses anciennes colonies, et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé à plus tard la France-Afrique. Alors, moi, je n'emploie pas le mot France-Afrique parce qu'il n'existait pas à l'époque, mais c'est néanmoins ces pratiques-là qui sont mises en place... à cette époque-là. Et du coup, troisième événement qui est dans Maison de 7, autre événement assez méconnu de l'histoire de France, c'est une manifestation d'ouvriers, principalement d'ouvriers du bâtiment à Pointe-à-Pitre en Maison de 7, qui se rassemblent pour demander des augmentations de salaire devant la sous-préfecture, et la police tire sur la foule. Et il y a au minimum 8 morts. Peut-être plus, on ne saura jamais, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de bilan chiffré. Il n'y en a pas eu à l'époque. Et les archives n'existent pas. En fait, c'est pas une question d'aller fouiller dans les archives, parce qu'en fait, tous ces trucs-là ont été soit pas rédigés dès le départ, soit déchirés juste dans la foulée. Donc on ne sait pas combien il y a eu de morts. Ouais. Mais néanmoins, voilà, on parle d'un département français. 8 morts lors d'une manifestation, c'est quand même considérable. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé cet événement, le livre Metz 67, parce que l'événement s'est produit en Metz 67, mais aussi parce que, par référence, un an après, il y a Metz 68. Et Metz 68, même si il y a un peu une idée reçue qu'il n'y a eu aucun mort en Metz 68, il y a eu 3-4 morts. Il y a un commissaire de police écrasé par une voiture, mais on ne sait pas trop dans quelles circonstances. Il y a un manifestant qu'on a retrouvé mort au pied d'une barricade, mais on ne sait pas s'il était asthmatique ou s'il a été poussé. Enfin bon, Mais quoi qu'il en soit, 3-4 mois pendant un mois avec des millions de manifestants dans les rues, et un an auparavant, 8 voire plusieurs dizaines de morts dans une manifestation d'ouvriers à Pointe-à-Pitre, et pareil, on balaye ça sous le tapis, on n'en parle pas. Donc c'était l'idée de raconter en fait ce qu'était le début de la Ve République. Ce qui était ça, c'est les choses qu'on a. Je pense que c'est pas simplement qu'on les a oubliées, c'est qu'on a voulu les oublier, on les a balayées sous le tapis. Et il y avait un peu l'idée d'explorer au travers cette trilogie, par le biais du roman policier, ses débuts, à une époque où aujourd'hui la Ve République est très contestée. Elle est contestée évidemment dans ses institutions, mais pas uniquement. Dans la manière dont les banlieues, par exemple, sont gérées, dans la question d'immigration est gérée, dans la question sociale est gérée, et j'ai entre guillemets été rattrapé par l'actualité depuis que j'ai commencé cette trilogie par ce qu'on appelle les violences policières, voilà, qui sont une permanence de cette époque des années 60, et finalement qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu l'objectif, et les trois événements qui sont des événements, oubliés de cette histoire pourtant récente, et je me rends compte effectivement, donc moi j'ai écrit ça, j'ai lu des bouquins d'histoire, j'ai découvert ces événements, mais effectivement je me rends compte que les lecteurs qui après lisent les polars me disent mais j'ai vécu cette époque là, des gens un peu plus âgés que moi, et j'ai vécu cette époque là et j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà.
Et vous mélangez donc fiction et événements et personnages réels, ça c'est assez savoureux de croiser des gens comme Mitterrand dans les deux premiers, et Chirac est parfait dans les 67, c'est la scène est vraiment parfaite. Il y a d'autres personnages que vous citez sans les nommer, mais qu'on croit reconnaître. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de réaction? Il y a Monsieur Charles, par exemple, on voit bien qui c'est.
Non, c'est pas par peur. En fait, quand j'ai commencé, j'avais envie que mes personnages de fiction croisent des événements historiques. Et puis à partir du moment où ils commencent à croiser des événements historiques, qu'en est-il des personnages historiques? Il y a notamment un de mes trois personnages récurrents dans les romans qui s'appelle Luc Blanchard, qui au départ est un policier, après un journaliste. Et c'est quelqu'un finalement qui a, par ses professions, accès à des hommes politiques, à des personnalités. Et donc je me dis, mais pourquoi pas les introduire finalement, parce qu'ils étaient là à l'époque et lui avait accès à eux. Et notamment, dans le deuxième roman, Fracas, Luc Blanchard est journaliste, il bosse sur les questions de décolonisation. À cette époque-là, il est normal qu'un journaliste aille interroger Jacques Foccart, le bras droit du général de Gaulle pour les questions africaines. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi inventer des personnages? Tout bonnement, j'ai qu'à prendre des personnages existants. Et à la question pour laquelle il y en a qui sont sous leur nom et d'autres pas, il y a deux raisons à laquelle il y en a qui ne sont pas sous leur nom. Il y a une raison parce qu'on m'a dit, notamment pour le premier roman, il y avait Jean-Marie Le Pen et Alain Delon qui apparaissaient. Et on m'a dit, attention, ils sont encore vivants et ils sont procéduriers.
C'est bien ce que je
veux. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai pas voulu enlever Jean-Marie Le Pen parce que chaque fois qu'il apparaît, c'est dans des circonstances parfaitement plausibles et j'ai vraiment respecté ce qu'il a fait à l'époque, ce qu'il a pu dire à l'époque, ce qu'il était à l'époque. Donc j'avais toute la documentation pour blinder. À ma grande déception, il n'y a jamais attaqué de livre, j'aurais bien aimé. Mais bon. Et Alain Delon, j'ai transformé sur un acronyme complètement transparent. Et puis après, il y a dans le dernier roman, Maison de 7, j'ai transformé le nom du préfet. Le préfet dans mon roman s'appelle Pierre Delbotte. En fait, c'est un préfet qui a vraiment existé sous le nom de Pierre Belotte. Pareil, je me suis calé sur les événements, enfin, ce à quoi il a participé. Mais il y a un trou dans sa biographie. Une fois qu'il part de Guadeloupe et avant qu'il devienne préfet de Seine-Saint-Denis, il passe dans une entreprise parapublique, un truc comme ça, mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Et c'est pas. Et comme moi, je le fais aller au cabinet de Pompidou. J'ai pris une décision, ce qui passait pas, mais il l'a pas fait. Donc je me suis dit, voilà, je vais transformer un peu le nom. Alors c'est un jeu un peu subtil, hein, mais bon, voilà, parce que quand même, les personnages historiques que je mets en scène, je m'attache à respecter leur vie historique, c'est-à-dire que je leur fais pas faire n'importe quoi.
Donc, c'est salé, voilà. Chirac.
Oui, mais c'est lui-même l'a raconté, en fait.
Ok.
Bizarrement, moi j'avais inventé un... Bon, j'ai inventé une scène où il est accompagné par un de mes personnages, oui. Mais j'avais inventé un peu de trois trucs, et depuis, il y a 3-4 mois, il y a un bouquin de mémoire qui est paru de je sais pas qui raconte exactement ça, où effectivement, il va rentrer en Krasuki avec un flingue, parce qu'il y a les trucs de ce qui va lui arriver. Et ça, les deux l'ont raconté, et voilà, donc c'était assez amusant. Et souvent, je me trouve confronté à des situations comme ça, en me disant, mais... J'ai qu'à employer des personnages réels parce que c'est pas la peine d'en inventer. Et c'est notamment dans le premier roman, dans Requiem. Je pense que si j'avais inventé un préfet de police qui aurait été collabo durant la Seconde Guerre mondiale à envoyer des dizaines de milliers de juifs dans les camps de la mort, puis après en Algérie à taper sur les apprentis algériens, puis après la préfecture de police de Paris à superviser deux manifestations extrêmement mortelles en octobre 61 puis au métro Charonne, pour finir dans le gouvernement de Giscard d'Estaing en tant que ministre du budget avant d'être rattrapé durant sa retraite et d'être condamné pour crime contre l'humanité. Je pense que mon éditrice m'aurait dit t'abuses un peu, tu vas trop loin. Mais bon, comme Maurice Papon a existé, autant de l'employer.
Et donc c'est une trilogie et c'est fini, mais la 5ème République elle n'est pas finie, comme vous le disiez, il y a encore plein de choses à raconter. On finit mai 67 avec la création de la BAC. Qu'est-ce que vous allez faire après ?
En fait, pour l'instant, la trilogie s'arrête là. Parce que les trilogies, c'est bien. Voilà. C'est Star Wars, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est, je ne sais pas pourquoi on fait les romanciers font des trilogies, c'est bien.
Star Wars, ça...
Après, oui, voilà. Ouais. Pour des questions financières. Mais peut-être que moi, pour des questions financières, je me laisserais tenter. Mais non, j'avais envie d'arrêter ça en mai 68 parce que... Bon, ça, c'est un point de vue de citoyen. Il se trouve que j'ai été élevé par une mère 68arde. Elle m'a toujours vanté mes 68. Mais j'ai un regard un peu beaucoup plus négatif, moi, aujourd'hui. Et c'est le fait que, en fait, pour moi, mes 68, c'est à partir de cet événement-là, qui, certes, est une. Il y a des conquêtes sociales et sociétales qui sont importantes. Il ne faut pas négliger ça, notamment sur le point de vue de la société, de la libération des mœurs, de ce qui est permis aux jeunes filles dans la France contemporaine. Mais c'est aussi le moment où finalement il y a 1 million de gaullistes qui défilent dans les rues, qui confortent le pouvoir du général de Gaulle, et où finalement la 5ème République n'est plus remise en cause. Et à partir de mai 68, cette période d'agitation entre 58 et 68, où la 5ème République est contestée, est remise en cause, etc., bah finalement elle est inscrite dans l'ordre établi. Le gaullisme commence à muer et s'éloigne effectivement du général, qui, parce qu'en 69 il démissionne, et il meurt en 70. Et voilà, ça, le gaullisme devient autre chose, devient une droite conservatrice assez traditionnelle. Et donc voilà, j'avais envie d'arrêter la trilogie là. Mais ce que j'ai découvert durant mes recherches, c'est notamment que dans les années 70 en France, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais il est assez considérable, il y a eu quelque chose comme 691 assassinats politiques sur le territoire français. Rien que dans les années 70. Or, beaucoup, c'est lié aux militants qui se battaient contre l'apartheid, donc des Sud-Africains qui passaient par la France, au mouvement de la fraction armée rouge en Allemagne, les brigades rouges en Italie, des gens qui passaient par la France et qui étaient assassinés sur place. Mais quand même, 691 assassinats politiques en France, c'est assez considérable. Donc, je me suis dit qu'il y avait un terreau et une matière à raconter aussi de belles histoires. Donc, on verra peut-être qu'un jour, je reprendrai, non pas la trilogie, mais les personnages pour les faire avancer sur d'autres histoires. Voilà, ouais. Mais il y a encore plein de choses. Parce que le sac continue à aller à dévier de pire en pire. Parce que, au départ, moi, quand je parle du sac dans Requiem, ça reste une gros bras destiné à sécuriser les meetings et les manifestations des gaullistes. C'est pas encore trop méchant. Mais après, ça dérivera dans la crapulerie et la criminalité jusqu'à être dissous en 82 après une tuerie. Quoi. Donc
parlons-en des personnages. Justement, il y a Luc Blanchard qui est le personnage un peu principal, et puis il y en a deux autres qui vont revenir régulièrement, qu'on va suivre aussi dans cette trilogie.
Voilà, donc en fait, on a un peu trois archétypes de polar.
Oui, c'est le
bon,
la
route et le truc. Hein. Voilà, et effectivement, c'est le premier truc qu'on m'a sorti quand le bouquin est paru, et que je n'avais évidemment pas vu, comme tout écrivain qui ne voit pas sa copie, alors que c'est un film que j'ai dû voir une vingtaine de fois, mais je n'avais pas vu en l'écrivant. Donc voilà. Mais oui, il y a le jeune flic naïf et idéaliste qui est confronté à la dure réalité d'abord de son métier, et puis de la France de l'époque, qui devient après journaliste parce qu'il démissionne de la police, qu'il n'en peut plus. Il y a le truand corse qui opère à Marseille, qui bosse pour la French Connection, mais...
Au bon cœur,
parce qu'il a été résistant et... Il a beau être un esprit un peu libertaire et anarchiste, quand même, quand il y a des problèmes, il est du bon côté du manche. C'est ça. Et puis après, il y a le truand, le mercenaire, le type qui est pour. Ouais, voilà, la brute qui fait qu'effectivement, il effectue finalement les bases œuvres de l'État français. Il a été collabo. Après, il bosse pour la préfecture de police pour tuer des types en douce. Puis, dans Fracas, il va former les militaires camerounais pour finir par mettre son set pour aller émerger auprès d'une autre crèmerie qui est la CIA, tout aussi peu ragoûtante que l'État français. Et voilà, donc lui, c'est effectivement c'est le mercenaire, le sale bonhomme. Mais.
Pareil, il a aussi un.
Mais voilà, mais il se trouve que, comme il est généralement en bout de chaîne d'exécutant. Il y a souvent aussi le maillon faible qu'on cherche à éliminer, donc il a souvent des problèmes avec ses commanditaires et il se retourne contre eux. Et puis, deuxième problème, c'est un homme qui est homosexuel dans les années 50 et 60 en France, et ça, c'est assez difficile, donc il ne peut pas l'avouer, il ne peut pas faire son coming out, comme on ne disait pas à l'époque. Et donc, c'est quelque chose qu'il est obligé de, c'est un secret qu'il est obligé de garder, et un secret dont c'est un certain pour le faire chanter. Donc voilà, c'est aussi c'est un personnage un peu en zone de gris malgré tout.
Est-ce que parmi ce public nombreux, il y a des questions?
Mais ces trois personnages, c'est des personnages inventés ou c'est des vrais...
Ah non, c'est des personnages complètement inventés. C'est des personnages de fiction qui entraînent les romans, qui se déroulent sur fond de faits historiques vrais,
mais
inventés.
Le méchant, là, il fait un peu penser... Comment s'appelle ce mercenaire, là?
Bob Denard.
Bob Denard. Mmh. Il y a un petit côté Bob Denard.
Oui, il y a un côté aventurier de toutes les mauvaises causes, qu'elles soient perdues ou pas. Lui recherche à faire de l'argent. Voilà. Il cherche à faire du fric. Et puis au bout d'un moment, en fait, le fric ne venant pas, mais les emmerdes s'accumulant, il cherche surtout à s'échapper un peu de ça parce que voilà, il voudrait avoir une vie un peu plus tranquille. Mais oui, c'est le type qui cherche son intérêt dans tout ça. Et il y a toujours des gens pour l'employer, finalement, que ce soit la préfecture de police de Paris. L'armée française ou ultérieurement la CIA, voire les cabinets le cabinet noir de Georges Pompidou, qui ont toujours besoin de gens comme ça, en fait. Et que l'histoire, à un moment, il fraye un peu avec le sac, mais le sac, c'est ça, au départ, c'est une milice de gros bras pour les gaullistes. Mais où est-ce qu'on recrute des gros bras? Finalement, on recrute dans le milieu, dans des anciens de Gestapo, dans des trucs comme ça, pas très ragoûtants. Et voilà, c'est le problème des cabinets noirs de la République. On se met à sortir des clous de ce qui est légal. Et ben on fait appel à des gens qui s'affranchissent de la légalité et qui n'ont aucun scrupule. Et donc ça, c'est les Oxfam.
Voilà. Moi, je ne sais pas à quel moment vous avez écrit ce mai 67, mais moi, j'ai tout de suite pensé à l'histoire de Benalla, par exemple.
Ben, je l'ai écrit, effectivement. L'affaire Benalla s'était déroulée, etc. Mais c'était...
On est dans cet abus de... De voilà. Gros bras, de pouvoir.
On est dans cet abus de pouvoir parce que le contexte est intéressant à raconter. Ben, Maison de Sète, en fait, il y a eu. Maison de Sète est précédé de deux choses. Enfin, l'événement, donc le massacre de Maison de Sète, est précédé de deux choses. Le premier, c'est qu'en 66, il y a un cyclone qui passe sur la Guadeloupe. Donc beaucoup de destruction, principalement, effectivement, les habitations pauvres, etc. Et en fait, l'État français, le gouvernement à Paris, se moque un peu de la reconstruction. Il alloue quelques fonds, mais pas grand-chose. Et surtout, les acteurs de la préfecture se rendent compte que finalement, ceux qui ont de l'argent, donc principalement les Blancs, Guadeloupe, n'aident pas trop ceux qui ont perdu beaucoup de choses dans le cyclone, c'est-à-dire les Noirs. Donc ça crée un peu de ressentiment dans la population. Deuxième événement, en mars 67, c'est dans le prologue de mon bouquin, en fait, il y a... Un pauvre type, ce qu'on appelle un clouteur, qui n'est même pas un cordonnier, c'est un type qui recloue les semelles usées. Qui, dans la ville de Basse-Terre, un matin, comme tous les matins, met son échoppe devant un magasin pour donc clouter les semelles des gens. Et le magasin devant lequel il est, le commerçant en sort et l'insulte, le traite de sale nègre et lâche un chien sur lui. Et c'est fait au milieu de la foule et la foule réagit. Violemment, parce qu'ils ont un exemple type d'un riche commerçant blanc qui maltraite ce qu'on appelle un malheureux, y compris en créole, on dit un maléré en créole, noir, juste pour rien. Et donc, une manifestation spontanée, la préfecture est obligée d'exfiltrer le commerçant, etc. On fait intervenir des gardes mobiles, et c'est une période d'élection législative en 67, donc on renforce aussi, et il y a une forte présence de CRS, de gardes mobiles, etc., qui arrivent en Guadeloupe pour essayer de maintenir le couvercle sur la casserole pendant cette période-là. Et deux jours avant les manifestations de mai 67, en fait, les CRS et Gaz Mobile doivent repartir à Paris. Et quand démarre la manifestation des ouvriers du bâtiment, les mecs sont sur le tarmac à Pointe-à-Pitre, prêts à décoller, à rentrer en France. Ça fait 3 mois, 4 mois qu'ils n'ont pas vu leur famille, ils ont pas été en France. Ils ont envie de rentrer en métropole. Et sauf qu'on leur demande de revenir intervenir à la manifestation. Donc les mecs sont à cran et il y a des ordres qui sont donnés de tirer dans la foule. Et c'est pas, en fait, et c'est la trame de mon roman que j'ai un peu romancé, mais la véritable histoire, c'est qu'il y a des gens qui sont ciblés. Et il y a notamment un personnage qui s'appelle Jacques Nestor, qui est aussi dans mon roman en tant que personnage réel, vraiment, qui est un espèce d'activiste, un type qui est de tous les coups, mais associatif, mais y compris pour aller, c'est lors de l'ouragan, il avait pris sa barque pour aller apporter de l'eau et des aliments aux gens, il aide à la solidarité collective, et il est vaguement militant indépendantiste, comme il y a un groupement de militants indépendantistes en Guadeloupe, qui s'appelle le GONG, le Gouvernement des Organisations Nationales de Guadeloupe. Et en fait, c'est principalement un mouvement d'intellectuels et d'étudiants. Donc ils font des réunions, ils crient très fort, et ils font appel au dogme marxiste et à l'indépendantisme. Mais franchement, ils cassent pas trois pattes à un cadavre. Seulement, ils ont alarmé les RG. Les RG sont à cran, sont persuadés que ces types-là volent l'indépendance de la Guadeloupe. Et faut pas oublier qu'on est en 67 dans les Caraïbes, qu'il y a Cuba, pas loin. Donc, tout le monde a une paranoïa vis-à-vis de Cuba, une paranoïa vis-à-vis de la contagion communiste. Donc les RG sont un peu à cran. Et c'est pour ça qu'ils profitent de la manifestation des ouvriers du bâtiment pour cibler quelques personnes, dont ce Jacques Nestor. Et on peut vraiment dire qu'ils ont été abattus. Ils étaient connus des RG. Il y avait des policiers qui connaissaient, ils savaient à quoi ils ressemblaient, etc. Donc ils sont sciemment abattus pour, pareil... j'ai employé les mots de la première guerre pour calmer, pour bien étouffer, effectivement, c'est l'étouffoir, sur des revendications indépendantistes qui sont un peu en carton, malgré tout. Évidemment. Et donc voilà, je ne sais plus à quelle question je répondais, mais voilà, mais son titre ne se déroule pas ex nihilo, hors de n'importe quoi, et c'est pas non plus des policiers qui paniquent parce que tout à coup ils auraient des mecs avec des morceaux de bois et des briques qui les tabassent. C'est on leur donne l'ordre de tirer, et s'ils peuvent en plus cibler quelques activistes bien connus des de nos services, comme on dit, autant y aller, quoi. Et tout ça, c'est un ordre qui est donné effectivement par la préfecture avec l'aval des ministères parisiens, parce qu'il y a plusieurs ministères, il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère des colonies, qui est... c'était pas les colonies, non, parce que c'était plus une colonie à Guadeloupe, contrairement à ce qu'on pense, ça devait être le ministère des Outre-mer. Et tout ça est approuvé au plus haut niveau. Est-ce que ça a monté jusqu'à De Gaulle, on ne sait pas, mais c'est au moins monté jusqu'à son bras droit, Jacques Foccart.
Aujourd'hui, ça, à la sortie du bouquin, il y a eu des réactions comme ça, un peu officielles ou même officieuses, mais sur cette période-là, par rapport à des gens qui... aujourd'hui sont encore en place.
Non, il n'y a eu aucune réaction officielle, mais en fait, il y a eu quand même un événement qui a... parce que c'était un homme sans tête, a été balayé sous le tapis pendant des décennies. Néanmoins, en 2014, il y a une commission d'enquête qui a été nommée, qui a été dirigée par l'historien Benjamin Stora, qui a rendu un rapport en 2016 pour faire la lumière sur ces événements. Et c'est très sérieux, ils ont accès aux archives, ils ont fait un très bon travail, tout le monde le reconnaît. Et en fait, ils disent effectivement, l'ordre a été donné, les archives ont été détruites, et le seul point, le véritable point d'achoppement, en fait, c'est la question du nombre de morts. Parce que, juste dans la fouille de Maison 7, en fait, Maison 7 à l'époque n'est pas sous couvert parce que la presse. Des Antilles s'y intéressent, mais aussi la presse métropolitaine. Il y a des articles qui sont faits, on dit qu'il y a des morts dans la manifestation, etc. Et on parle de 6, 7, 8 morts. Et après, ce nombre de morts, ce bilan, il n'y a jamais de bilan officiel donné par les autorités. C'est quand même incroyable, parce qu'une manifestation, il n'y a pas de bilan officiel qui est donné. Au moment d'accident de la route, on donne un bilan officiel. Voilà.
C'est pas que la manifestation, il n'y a pas
Oui, parce que après, effectivement, si on peut parler d'émeute, disons que c'est quand même un peu chaud dans Pointe-à-Pitre. Et effectivement, ils vont arrêter chez les gens, à domicile, des gens soupçonnés de visée indépendantiste. Dont certains disparaissent. Et voilà. Et pendant des années, en Guadeloupe, en fait, il y a des familles qui ne disent rien. Qui disent après coup qu'il y a eu des disparus, mais qui ne disent rien. Et c'est ainsi qu'en fait, pendant des années, on n'a pas de chiffres. Et puis un beau jour, alors cet événement, il est connu qu'en Guadeloupe, mais en Guadeloupe, on n'en parle pas trop. En 83, un sous-secrétaire d'État du gouvernement Mitterrand dit il y a eu 83 morts en mai 67. Personne ne sait d'où il sort ce chiffre. C'est pas repris. Le type est mort en plus à la fin des années 80, donc on ne peut pas le questionner. Et donc voilà, on passe tout à coup de 6, 7, 8 morts à 83. Et pour le coup, un certain nombre de gens en Guadeloupe, les héritiers du Gond, les indépendantistes, mais aussi les proches syndicalistes, eux vont jusqu'à parler de quelques centaines de morts. Ce qui paraît beaucoup, mais on ne sait pas. Tout est-il qu'effectivement, c'est un peu le point d'achoppement de la commission menée par Benjamin Stora. Et en 2016, quand ils rendent leur rapport, ils disent, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais en gros, on a pu comptabiliser que 8 morts officielles d'après les regroupements des hôpitaux, des cimetières, des familles qui ont déclaré. Mais on ne pourra jamais la vérité et il y a pu en avoir beaucoup plus. Donc voilà, mais simplement parce qu'en fait, il y a des déclarations qui n'ont pas été faites à l'époque dans les hôpitaux. Il y a des familles qui ont probablement enterré des morts sans rien dire.
Et puis aussi, vous le montrez dans mes 67, dans ce livre, quand le journaliste se rend en métropole, il se rend bien compte que l'histoire n'intéresse que peu de gens en métropole, finalement.
Ouais, ça.
Et c'est aussi peut-être regrettable, mais c'est un peu encore aujourd'hui ce qui se passe, puisque la Guadeloupe n'est toujours pas... Il y a toujours des taxes immenses par rapport aux biens et aux services.
Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que
des inégalités qui existent. Quoi.
Ça n'intéresse pas... Mais on en parle un peu à l'époque, ça n'intéresse pas grand monde. Il y a néanmoins tous ces gens soupçonnés d'indépendantisme et... il y en a une vingtaine qui sont traduits devant la Cour de sûreté de l'État. Mmh. C'est pour haute trahison, c'est quand même. Haute trahison, c'est pas rien. Mmh. C'est à part serial killer ou pédophile à répétition, hein, il n'y a pas grand chose de pire dans les juridictions que si on est accusé de trahison contre sa propre nation. Et donc il y a un procès que je raconte dans le roman qui se déroule entre mars et avril 68, qui se dégonfle complètement. Et la presse le couvre aussi beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la presse arrive au procès. C'est des journalistes, des chroniqueurs judiciaires qui n'ont pas du tout suivi cet événement. Ils arrivent en disant il y a quand même 19 personnes devant la haute cour de sûreté de l'État. C'est du sérieux, quoi. Ça ne va pas rigoler. Et en fait, les journalistes du Figaro, les journalistes de RTF, etc., voient le dossier de l'accusation complètement creux. Mmh. Et donc réalisent que c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, ils sont tous relâchés, hein, les 19. Mais, et puis après, ça retourne dans l'oubli. Et donc, à l'époque, finalement, c'est oublié. Mais, chose intéressante, et c'est aussi notre rapport à... C'est un département d'outre-mer, mais c'est un département français. Hein. Ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes... ils sont habilités à tout. Ils sont les Français comme les Français de la Creuse ou de la Seine-et-Marne. Moi, j'ai été faire des recherches pour ce bouquin en mai 2022. Donc, en mai 2022, c'est l'anniversaire de mai 67. Mais il y a trois anniversaires en mai en Guadeloupe. Il y a l'anniversaire de mai 67, il y a l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et il y a aussi l'anniversaire de rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Donc il y a ces trois anniversaires qui vont conjoncer en mai, donc mai c'est un mois important en Guadeloupe. Mmh. Il y a des événements dans les villages, des expositions, des pièces de théâtre, on en parle beaucoup à la radio, etc. Donc moi j'étais là-bas en mai 2022, je me balade en Guadeloupe, j'avais la radio, j'écoutais plein d'émissions, de débats, tout comme ça. Il y a une ministre, je ne sais plus laquelle, qui est venue pour ces événements. Et en même temps, j'avais ma compagne au téléphone qui était à Paris. Et je lui dis, mais on parle de ce qui se passe en Guadeloupe, là. Ça fait que c'est quasiment un mois d'événements locaux, de fêtes, de concerts, de débats politiques. Il se trouve que ma compagne écoute beaucoup la radio. Et elle me dit, non, j'ai même pas entendu parler de la visite du ministre, ni rien. Quoi. Et voilà, c'est notre rapport, effectivement, à ce qu'on n'appelle pas les colonies, ce qu'on appelle les départements et les territoires d'outre-mer aujourd'hui, mais on a quand même un rapport de désintérêt par rapport à ça. On s'en moque. Et on en parle très peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Metz 67 ne parle à personne en métropole. Et quand bien même, il y a eu plein d'échanges, parce que voilà, il y a aussi beaucoup d'Antillais, de Guadeloupéens qui sont exilés, qui sont travaillés, qui ont fait leur vie en région parisienne ou ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de ces territoires obscurs de la République qui donc clament sans cesse avec force que c'est la France, mais en même temps qu'il n'est pas vraiment complètement traité comme la France. Et vous l'évoquiez, moi je suis pas un spécialiste de Guadeloupe, mais c'est quand même le principe d'une économie qui marche à l'envers, au sens où Grosso modo, ce qui s'est passé en Guadeloupe, c'est qu'il y avait une économie de plantation, quoi, principalement à base de canne à sucre et de fruits tropicaux. Et à partir des années 30-40, ça commence à se casser la figure. Donc, par quoi on remplace ça ? On remplace ça finalement par des fonctionnaires qu'on envoie de métropole en Guadeloupe avec des salaires 30 à 35% plus élevés, mais un coût de la vie 30 à 35% plus élevé. Donc finalement, on subventionne de manière directe et on développe rien. Juste, on envoie des subsides publics là-bas. Et on considère que du fait qu'on envoie des subsides publics aussi, ce serait bien de ne pas trop la ramener. Et c'est cette tendance, effectivement, à toujours pas trop la ramener en Guadeloupe. Et moi, pour l'anecdote, en fait, moi, j'ai découvert Mai 67 quand, en 2009, il y a eu des manifestations contre la vie chère en Guadeloupe, avec notamment menées par Edidio Mota, c'est ça ?
Ouais.
Voilà, exactement. Et en fait, quand je lisais des reportages, ou je tournais des reportages à la télé ou à la radio, il y avait sans arrêt, effectivement, des gens qui parlaient de Mai 67. Ça va dégénérer, il ne faudrait pas que ce soit comme Mai 67, etc. Et rebelote, en 2020-2021, au moment du Covid, quand il y a eu des barricades en Guadeloupe contre les vaccinations, etc., il y avait toujours quelqu'un dans un reportage pour dire « faut pas que ça dégénère comme Mai 67 ». Et je me disais « mais c'est quoi ce Mai 67 qui remonte toujours à la surface ?» Alors que ça n'a rien à voir, a priori. On parle d'un événement de manifestation de manifestants du bâtiment qui se sont fait tirer dessus par la police. Qu'est-ce que ça a à voir avec les trucs contre la vie chère et contre les vaccinations de Covid ? Et en fait, ça a à voir parce que c'est leur histoire et c'est une blessure profonde pour les Guadeloupéens et que nous, on ignore complètement parce qu'on ne sait même pas qu'il y a eu un Mai 67 en Guadeloupe.
À lire donc Thomas Cantaloub, Mai 67, paru à la série noire de Gallimard. Merci beaucoup, Thomas.
Merci.